Cours de philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Jodard. Le 29 novembre 89.
Pourriez-vous expliquer la distinction entre affectivité, sensibilité, passion? Nous le verrons au moment des passions. Comment les quatre éléments sont-ils fondamentaux au niveau du vivant? Est-ce une métaphore ou quelque chose de réel? Ça, c'est la question du corps et du corps vivant. Il n'y a plus de feu dans le corps vivant que dans une pierre insensible. Ça, c'est le cours de Rimont. Après les passions. Comment celui, mais celui qui l'a posé se rappellera après les passions. Il rééditera ça. Je pourrais laisser le papier pour qu'il le recopie. Comment celui ou celle qui a perdu l'amour de soi peut-il, dans le contexte actuel, compte tenu des réalités sociologiques actuelles, le retrouver? C'est très vrai que c'est pas commode, je suis d'accord. Surtout qu'il y a l'imaginaire, parce que au fond, perdre l'amour de soi provient de l'imaginaire. Ce n'est pas naturel, donc c'est l'imaginaire. Mais quand je dis l'imaginaire, ça ne veut pas dire que c'est pas réel. C'est un réel imaginaire. Le psychisme est un réel imaginaire. Être malade du psychisme, c'est être malade réellement. C'est les autres qui disent que c'est imaginaire. Ah ouais, celui qui est dedans, il dit que c'est pas imaginaire du tout. Il est dedans. Et c'est une prison dorée qui est terrible, plus terrible que le point de vue physiologique. On est noué. Absolument noué. C'est l'imaginaire qui enlève cet amour de soi, ça c'est sûr. Comment le retrouver? Bon. Au plan surnaturel, la prière. Savoir que le Christ nous aime. Il nous a aimé le premier. Il continue de nous aimer. Puisqu'au fond, quand on ne s'aime plus, on ne peut retrouver l'amour à l'égard de nous qu'en sachant qu'il y en a d'autres qui nous aiment. Le Christ, nos frères, tel ou tel. Quelqu'un qu'on aime plus, qui est plus proche de nous. C'est comme ça qu'on peut retrouver, au-delà du contexte psychologique, sociologique. Alors, si on n'a aucun ami, qu'on ne croit pas dans le Christ, il n'y a pas de grâce. Comment, au point de vue purement humain, le travail nous redonne confiance en nous. Des réalisations, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir. Il faut, dans le monde d'aujourd'hui, je crois, c'est un facteur d'équilibre.
Et la méditation transcendantale.
Oh, surtout pas. Surtout pas. Je ne vais pas faire un cours sur la méditation transcendantale parce que c'est une introspection sur nous. Quand vous êtes dans l'imaginaire, toute introspection sur vous est emportée par l'imaginaire. Il faut redécouvrir le contact avec le réel. Et c'est pour ça que je dis le travail. Et autant que possible, un travail manuel. Autant que possible. Bêcher, planter des pommes de terre et des choux et des sapins. Construire une maison. Vous voyez, si on a un peu de don, et faire un peu de charpent, de menuiserie. Si on a un esprit un peu orienté vers le mécano, vers un peu de mécanique, sculpter de la pierre, parce que ça résiste. Vous voyez, c'est le contact avec le réel qui pourra seul nous sauver. Et je crois que toute méthode introspective est fichue. Parce qu'on reste dans l'intentionnalité, et notre intentionnalité est sous l'emprise de l'imaginaire. Le démon le sait très bien. Il est le prince de l'imaginaire. Il n'est pas le prince du monde, mais de l'imaginaire. Alors ça, oui. Il connaît notre imaginaire mieux que tous les psychologues. Beaucoup mieux. Et il nous maintient dans cette attitude de retour sur nous. Et de dégoût de nous. Il n'est pas le prince de l'amour, mais le prince de l'imaginaire. Et il met l'imaginaire en opposition vis-à-vis de l'amour. Et c'est pour ça que c'est si important de consacrer notre imaginaire à Marie. Je ne dis pas que Marie est la reine de l'imaginaire, hein. Non. Elle est la reine tout court. Mais parce qu'elle est la reine tout court, elle est la reine de l'imaginaire aussi. Aussi, si nous voulons. Mais Marie veut que nous coopérions, regagner du terrain. Vous voyez, l'imaginaire fait que les terrains deviennent des terrains malsains. Des terrains auxquels on ne peut rien cultiver. Avec des mouches mauvaises qui nous donnent le paludisme. Un paludisme spirituel, imaginatif, qui nous donne des fièvres quartes. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi on perd pied. On doit garder le contact tout le temps avec le réel et faire tous les jours quelque chose qui soit vrai. C'est facile avec l'obéissance. Mais c'est très vrai que c'est une des choses les plus terribles, c'est que l'imaginaire est en dehors de l'amour. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots du lien entre les passions et les quatre tempéraments, quand on verra les passions, mais pas maintenant, puisque nous avons pris exprès l'imaginaire avant pour entrer ensuite dans les passions. Alors à ce moment-là, donc, il faut reprendre ces questions. Je les mets là pour que ceux qui, pour qu'ils pourront les remettre au moment des passions. L'imagination n'est-elle pas très liée à l'un? Alors, je vous avais dit la dernière fois que l'imagination, puisqu'on va continuer un peu l'imagination, c'est intéressant. Et il y a peu d'études philosophiques bien faites sur l'imaginaire. Si parmi vous, il y en a qui s'intéressent à ça, prenez l'étude d'Aristote sur l'imaginaire. C'est un chef-d'œuvre. Pas commode du tout, mais c'est un chef-d'œuvre. Très intéressant. Prenez l'étude de sur l'imaginaire. Vous avez deux grandes études à faire. Là, il y a un petit mémoire très intéressant à faire sur l'imaginaire. Et prenez ensuite Sartre sur l'imaginaire. Vous avez là trois grands livres intéressants, tous les trois. Et qui sont intéressants à comparer au plan philosophique. Et à bien étudier au plan philosophique. Évidemment, trois styles totalement différents. Mais c'est intéressant de voir ces trois qui s'intéressent à l'imaginaire. Et chacun dit des choses intéressantes. Sartre dit des choses intéressantes sur l'imaginaire. Kant dit des choses intéressantes sur l'imaginaire. Et Aristote, en premier lieu. Le traité d'Aristote est court, mais il est très très bien fait. Je vous indiquerai quelques points de vue d'Aristote très très bien fait là-dessus. Alors, l'imagination... c'est notre première capacité de synthèse. Et c'est très intéressant de voir ça. Nous sommes poussés vers la synthèse par le point de vue de l'imaginaire. Vous voyez, on met des images les unes à côté des autres et on fait un amalgame. Mais on est en face d'une synthèse. Ce sont toujours des fausses synthèses imaginatives. Synthèse hâtive. Parce qu'il y a une hâte dans l'imagination. Il y a une générosité imaginative. Il y a une fécondité imaginative. Extraordinaire. Et c'est l'imagination. Ça ne tient pas la route. Dès que vous voulez mettre sur le terrain, ça ne va plus du tout. Tant que c'est en vous, c'est merveilleux. Vous construisez des mondes dans lesquels vous êtes toujours le premier. C'est évident. Et tout tourne autour de vous. L'imaginaire est terriblement égocentrique. Tout est tourné vers nous. Donc, dans la mesure où c'est une faculté, la faculté première de synthèse, nécessairement, elle est liée à l'un. Elle est liée à l'un parce qu'aussi, si l'un est propriété, c'est ce qui apparaît, la propriété. Et l'imaginaire, c'est toujours ce qui apparaît. Fantasia. Tout ce qui apparaît. Tout ce qui apparaît premier pour l'imaginaire. L'imaginaire ne creuse jamais quelque chose de profond. Au-delà d'apparaître. C'est toujours lié à l'apparaître. Quelle liée à l'un, ça c'est sûr. Les fausses synthèses de l'un, c'est forcé. Le passage du réalisme à l'idéalisme, l'imaginaire prend le pas. Je crois que toutes les philosophies idéalistes sont dans l'imaginaire. Un imaginaire artistique, un imaginaire logique. C'est pas l'imagination. L'imagination est bonne, mais l'imagination, dans ses synthèses, peut dévier. Et c'est ça que j'appelle l'imaginaire. L'imaginaire, c'est la synthèse qui provient de l'imagination. Mais l'imagination en elle-même est bonne. On va l'étudier un peu plus proche. N'y a-t-il pas une abstraction dans l'imagination? Oui, au dire d'Avicenne. Faut dire d'Avicenne, il y a une certaine abstraction. Et c'est vrai qu'il y a une certaine abstraction. C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment naît l'imaginaire, l'imagination? Elle naît à partir de nos sensations. Nos sensations sont diverses. Les sensations restent collées au réel grâce à l'intelligence. À travers les sensations atteint le réel. Les sensations n'atteignent que les qualités, n'atteignent pas le réel comme réel. On est dans l'ordre des qualités, dans l'ordre des formes, dans l'ordre du divisible. Les sensations, le toucher, on touche le continu, on touche le discontinu. Regardez comment une petite araignée ou une petite fourmi, c'est encore mieux, marche. Et puis elle rencontre tout d'un coup, on sent très bien, le discontinu. Dans le continu, ça va très très bien. Elle va à peu près droit, avec des gros fardeaux sur le dos. Mais quand elle rencontre, alors elle ne sait plus. C'est très très curieux. Vous regardez les fourmis. C'est extraordinaire. Et alors quand ça remonte, je crois que c'est ça, nos sensations, elles butent à des murs. Et alors, on ne sait pas comment, on tourne, nos sensations sont multiples et nous font buter toujours à un mur que nos sensations ne connaissent pas. C'est l'intelligence qui se sert des sensations qui peut aller plus loin et qui peut alors dépasser la sensation pure. Et c'est ça, la sensation humaine est toujours un dépassement de la sensation avec le jugement d'existence. Vous ne sentez pas le jugement d'existence, vous le saisissez intellectuellement. Et ça a pour vous une signification. Les sensations sont multiples et elles s'unissent dans le sensus communis, dans le sens commun. Et le sens commun permet de faire des liens entre les diverses sensations. Ces liens permettent une certaine unité. Ce n'est pas une synthèse de voir les rapports. Et c'est à ce moment-là où l'imagination, elle, va être mue par ses sensations, l'harmonie dans ses sensations, et va produire l'image. C'est l'imagination qui produit l'image. Vous pouvez dire ceci pour bien comprendre. Le concept est à l'intelligence ce que l'image est à l'imagination. Les fantasmata sont des images. L'image représente. Le concept signifie. Ça, nous pouvons assez facilement, dans une attitude réflexive sur nos connaissances, nous apercevoir tout de suite de ça. Puis les sensations. Les sensations n'ont pas de fruit. Ça, c'est un fruit, le concept. L'image est un fruit aussi. Tandis que la sensation, il n'y a pas de fruit. La sensation comme sensation ne représente rien. Vous touchez. C'est très très curieux. La pure sensation, ça ne représente rien. Vous touchez, vous sentez, et vous le dites vous-même. Vous touchez, vous sentez. Et la réalité est toujours présente immédiatement. Il n'y a pas de fruit intérieur. C'est la sensation. Vous ne concevez rien par la sensation. Vous n'exprimez rien par la sensation. Vous ne vous représentez pas. Le premier moment de la représentation, c'est l'imagination. Et au-delà de la représentation, la signification. Avec le concept, c'est l'intelligence. Alors, la signification a un mode universel. Tandis que la représentation est toujours singulière. On a des images. Vous vous représentez quelque chose. Ça, c'est sûr. Dans vos rêves, vous avez une imagination à l'état pur qui divague dans tous les sens. Quand vous êtes distrait, vous assistez à un coup, vous êtes distrait. Vous représentez, tiens, hier, j'ai rencontré Père Maître. Représentation. C'est une représentation. Vous vous rappelez ça. Et vous vous représentez. Vous vous souvenez des souvenirs. Tiens, telle phrase qui a été dite au cours me rappelle cette chose ancienne. Puis immédiatement, vous décollez. Quand on est dans l'imagination, on décolle. On est distrait. C'est ça la distraction. La distraction, c'est plus être présent à ce qu'on fait. On décolle. L'imagination est en dehors du temps, d'une certaine manière. Imagination. Vous représentez l'image. Alors, qu'est-ce que c'est que l'image pour répondre justement à l'abstraction? L'image, c'est une certaine synthèse des diverses sensations que vous avez eues. Il y a des images simples, il y a des images très complexes. L'image de Nabucodonosor. Cette statue au pied d'argile, avec le fer, avec le bronze, avec l'argent, avec l'or. C'est très curieux. Vous voyez, une synthèse. Complètement idiote. Des apports comme ça, et puis une synthèse. à la place d'inspirer. Donc c'est tout à fait différent. Il y a une signification profonde qu'on cherche. Autrement, regardez quand les gosses, puisqu'aujourd'hui c'est à la mode, ils font des petits dessins. Tous les gosses font des dessins aujourd'hui, tous. Ils se croient tous avec une inspiration. C'est très curieux, par les synthèses qu'ils font, imaginatives, des représentations. Donc il y a une synthèse, il y a un passage de la sensation à l'image. Et ce passage de la sensation à l'image qui représente, implique une abstraction. Ça c'est sûr. Puisque n'est contenu dans l'image que ce qui supporte la synthèse. Et la synthèse imaginative, il faut que quelque chose qui possède une certaine unité devienne partie d'un tout. Toute image est un tout. Et les sensations deviennent des parties de ce tout. Alors que la sensation comme telle, un certain absolu. Je touche cette dame. Je suis présent à cette dame. Il faut relativiser cette sensation avec une autre sensation pour en faire un tout qui est une image qui représente quelque chose. C'est très curieux ça. Alors comment se fait cela? C'est pour ça que l'objet de l'imagination, c'est très particulier. L'imagination n'est pas objective. Qu'est-ce qui fait l'objet d'imagination? C'est l'image qu'elle-même se crée. Vous voyez, la subjectivité transcendantale, imaginative. C'est l'intelligence, c'est l'imagination qui se donne à elle-même son propre objet. C'est pour ça qu'elle est toujours sincère. Il n'y a pas de vérité dans l'imagination. L'imagination se donne à elle-même son propre objet. Elle est mue par les sensations. Elle abstrait des sensations ce qui est capable de s'unir à une autre sensation. Et il se fait à partir de là une certaine synthèse. Un colosse au pied d'argile. Et puis le fer. Et puis l'or. Et puis l'argent. C'est un exemple magnifique pour voir ce que c'est qu'une représentation. Et représenter ce que c'est que ce tout. Aucune objectivité. Ce sont des parties qu'on assemble. Alors comment se fait cette synthèse? C'est ça qui m'intéresse. Puisque si je veux saisir ce que c'est que l'imagination, je dois regarder l'image. Le fruit de l'imagination, c'est l'image. Et c'est par le fruit que je vais poser cette puissance particulière que j'ai en moi, qui est l'imagination, plus ou moins développée. Alors, et là, Sartre a fait quelque chose de très intéressant. Il a réfléchi sur ce que c'était que l'image. Et il a constaté que l'image, il n'y a pas que Sartre. Toutes les psychanalystes font ça quand ils demandent à leurs patients de raconter les rêves. C'est intéressant. Et s'ils sont un peu artistes de peindre leurs rêves, vous avez tous vu des peintures de malades qui sont en train d'être psychanalysées et de voir le progrès. C'est très étonnant. C'est très intéressant, parce que c'est la projection de... C'est pas une œuvre d'art, hein. C'est simplement une projection de ce qui porte en eux. Alors l'image, bien, quand vous essayez, Sartre dit, quand vous voyez un immeuble pour la première fois, hein, vous visitez une ville que vous ne connaissez pas, vous voyez une grande maison, vous fermez les yeux, Vous vous représentez cette maison. Vous l'avez vue pour la première fois. Vous vous représentez cette maison. Vous l'avez photographiée. Au-dedans de vous-même, vous la représentez. Essayez, mais en jouant le jeu loyalement. Essayez de compter les fenêtres de cette maison. Vous pouvez pas. Incapable. Ça, c'est une constatation, il faut le faire. C'est facile à faire, tu vois. Mais faites-le loyalement. Foutez pas. Je vais te compter, je fermais les yeux. Ah, voilà, ça devient faux. Ça, c'est très simple de constater qu'il y a abstraction, passage de la sensation à l'image. Vous pouvez faire ça. Voyez un groupe de personnes qui vient vers vous. Vous fermez les yeux. Comptez le nombre de personnes. À peu près 10. Mais à peu près. C'est vague. C'est curieux que l'imagination fait le vague. Ça assouplit tous les concours. Alors vous avez Chagall au terme. C'est une peinture très, très, très... très angélique. Parce que vous ne pouvez pas vous représenter un ange. C'est curieux. Alors si on va un peu plus loin, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans l'imagination est inversé l'ordre des sensibles propres et des sensibles communs. Et ça, c'est très intéressant. Sartre ne le dit pas, ça. Il faut pousser. Sartre nous donne une matière intéressante. Et les psychanalystes nous donnent une matière intéressante. Quand vous voyez les différents dessins des malades, pas des enfants. Des enfants, c'est merveilleux. Parce que les sensibles propres sont là. Avec une force, ils mettent un rouge, un violet, un... C'est tranchant, les enfants. Et ça veut être tranchant. Et ça rejoint l'art moderne. C'est exactement ça. C'est sans nuance. L'enfant n'est sans nuance. C'est une nuance, c'est beaucoup plus. C'est l'intelligence, la nuance. C'est pas l'image. L'image est brutale. Alors, ce qui est très curieux, quand vous n'avez que l'image, normalement, dans nos sensations, nous avons les sensibles propres. Nous les avons déjà vus, les sensibles propres. Alors prenez la lumière. La lumière est un sensible propre. Hein? Le sensible commun, vous savez bien. Et puis, les sensibles communs. Les sensibles communs, ils sont cinq. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que chaque sens... un sensible commun prédominant. Alors, vous avez donc la grandeur, le nombre, le mouvement, le repos et la figura, la physionomie. Vous en avez cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je n'ai pas donné l'ordre, hein, parce que c'est peut-être la figura qui est première. La physionomie d'un pays. La physionomie d'un être. Sa démarche, vous voyez. La physionomie. C'est pas les sensibles propres. Hein. C'est pas la couleur de son visage. La couleur de ses yeux. Sa démarche. Plus ou moins anarchique. Ou plus ou moins au contraire. C'est différent. Alors, normalement, dans les sensations, les sensibles communs sont le support des sensibles propres. Et tout est ordonné aux sensibles propres dans les sensations. C'est du reste là où l'artiste met en pleine lumière, le grand artiste, les sensibles propres. Et il abstrait les sensibles propres, il les formalise, les sensibles communs. Et quand l'art est plus imaginatif, c'est les sensibles communs qui l'emportent. L'art rococo, sensible commun qui l'emporte. L'art classique, les sensibles propres. C'est la différence entre les deux. la sensation, mais ça, eh bien, quand il s'agit de l'image, il y a juste la question inverse. C'est les sensibles. Je mets un, deux. C'est les sensibles communs qui l'emportent. Et les sensibles propres sont ordonnés aux sensibles communs. Très étonnant, ça. Et quand vous êtes malade, les sensibles propres tendent à disparaître. Il n'y a que des sensibles communs.
Van Gogh, quand il a peint le champ de blé, la veille de son suicide...
Oui, la maison, le champ de blé, c'est les sensibles propres.
Oui, oui,
étonnant. Oui. Vous voyez, mais ce que je dis, l'artiste. L'artiste met en lumière les sensibles propres. Et le mouvement est fait pour...
Et pourtant, il a peint une maladie mentale.
Ah oui, mais ça, c'est autre chose. C'est un artiste, hein. Il est artiste. C'est pas, ne mettez pas Van Gogh comme les autres malades. C'est un artiste avant tout. Venez. Et donc, il reste. L'habitus d'art n'est pas atteint par la maladie. Heureusement. Il est malade pour des quantités d'autres raisons. Hein. Mais l'habitus d'art demeure. Et c'est ce qui fait. Mais c'est comme l'habitus métaphysique demeure avec la maladie. Ça qui est très très curieux. Et c'est là on voit très bien que ces habitus intellectuels d'art ou, peuvent guérir de la maladie. Parce que ça assainit le terrain. La maladie, c'est toujours l'imaginaire qui l'emporte. L'imaginaire qui va dans tout l'anarchie. Vous voyez, c'est toujours le problème de la maladie. Si vous pouvez avoir des habitus intellectuels ou des habitus artistiques, ils luttent contre l'anarchie imaginative. L'artiste a besoin de l'imagination. Je ne dis pas de l'imaginaire. Vous voyez ? Et il y a une lutte, chez Van Gogh, il y a une lutte terrible entre ça. Une lutte. Mais ces tableaux restent des tableaux artistiques. Et de temps en temps, ça frise. Vous voyez ? On le sent bien. C'est très curieux, mais c'est très important de comprendre que l'image, dans l'image, alors, chez les malades, je les fais vérifier par des psychanalystes qui s'occupaient beaucoup de ça. Alors, ils ne parlaient pas de sensible propre, sensible commun, parce qu'ils ne connaissent pas les clés du royaume. C'est pas vrai. Mais ils écrivaient. Et alors, j'ai précisé. C'est des sensibles communs. Voyez, dans vos cauchemars, on est près de la folie quand on a des cauchemars. C'est des petits grains de folie. Il faut bien être apparenté au fou. De temps en temps, quoi. C'est comme ça, on peut les comprendre. Alors, dans les cauchemars, qu'est-ce qu'il y a ? C'est des sensibles communs. C'est la prédomination des sensibles communs. Mais c'est la multitude. C'est la rapidité du gros chien qui vous poursuit. Et vous êtes enlisé. Vous ne pouvez pas bouger. Mais il y a le repos. Il y a le repos. Et puis il y a le mouvement. Et le mouvement lutte contre le repos. Et vous êtes enlisé. La figura. Des figures de diable. Des figures extraordinaires. Il joue avec ça, le diable. Il a toujours deux cornes, hein, toujours, ça fait partie de la physionomie. Et c'est la quantité, la grandeur, le nombre. On est envahi par ça. Dans les cauchemars, c'est pas du tout. Dans tes rêves plus calmes, les sensibles propres sont là présents. C'est très très curieux ça. Mais c'est net que l'image. Imaginateur, fruit d'imagination, renverse l'ordre. C'est là où il y a abstraction. Et alors vous comprenez tout de suite que les sensibles propres résistent à la synthèse. Parce qu'ils sont indivisibles. Tandis que les sensibles communs appellent la synthèse. Alors on comprend comment se fait cette synthèse imaginative. C'est très curieux. Il ne faut pas réfléchir trop à ses rêves, c'est pas trop, et à ses songes. L'ecclésiastique dit qu'il faut pas y réfléchir de trop. Je relisais ça l'autre jour, ce passage, hein, de façon très très nette. Il faut pas rester trop long dessus, là-dessus. Il faut y passer. D'un bon conseil, il faut pas rester trop là-dessus. Parce que si vous restez trop là-dessus, vous êtes fichu. Au bout d'un certain temps, vous ne saurez plus si c'est le réel ou pas le réel. Vous voyez ? Et l'imaginaire nous met dans cette condition. On est prisonnier de son imaginaire. Et quand le cauchemar est très très fort, mais je crois que c'est la différence avec les pré-émotions qu'on peut avoir dans les rêves. Alors les sensibles profs sont présents. Tandis dans les cauchemars, non. Les personnes qui ont des dons de vision, dans les dons de vision, c'est pas imaginatif. C'est ça qui est très curieux. Les sensibles profs sont présents. Alors là, on a tout de suite un discernement entre l'imaginaire et puis le don de la vision. Cette simple petite distinction d'Aristote, sensible propre, sensible commun, que Descartes a laissé tomber, puisque Descartes a dit laissons tomber les sensibles propres, ils sont subjectifs. C'est juste l'inverse. Puisque dans l'imaginaire, où vous avez une connaissance purement subjective, c'est les sensibles communs qui l'emportent. Alors, voyez là, vous voyez la naissance de l'image. Ça, c'est très important, de la représentation. Et à partir de là, vous pouvez comprendre que l'aspect objectif de la connaissance de l'imagination, c'est la subjectivité. Parce que c'est vous-même qui faites cette synthèse. Cette synthèse de représentation. Si vous laissez l'imagination se développer pour elle-même, si l'imagination est au service des sensations, alors à ce moment-là, l'imagination met en relief les sensibles communs, mais les sensations sont là pour rectifier. Et c'est ce qui se passe dans l'art. Dans l'art, l'imagination est au service des sensibles propres. Et d'une intelligence qui habite ces sensibles propres et qui les met en pleine lumière. Et c'est là la différence entre l'imaginaire du fou ou du malade, plus ou moins malade, et l'imagination de l'artiste. Ou l'imagination du mathématicien. L'imagination du mathématicien n'est pas du tout une imagination folle. Quand on dit que l'imagination est la folle du logis, l'imaginaire est le fou du logis. Vous voyez, je délivre la femme de la folie. Parce qu'on dit que l'imagination est la folie, est source de folie. Non, c'est l'imaginaire. C'est très très curieux. C'est l'imaginaire, c'est pas du tout. C'est pas du tout l'imagination comme telle. L'imagination comme telle est bonne. Il faut de l'imagination. Mais il faut pas laisser l'imagination se débrider. L'imagination est toujours au service d'autre chose. Vous voyez, c'est le métaxu par excellence. L'imagination. Elle est entre les sensations et l'intelligence. Entre les deux. Et parce qu'elle est entre les deux, elle peut se développer pour elle-même, se couper de sa base et se couper de son sommet. Alors à ce moment-là, l'imaginaire se développe de façon anarchique. Elle n'a plus de limite. C'est ça qui est très étonnant. Elle n'a plus de limite. Parce que les sensibles communs se fondent sur le divisible. Et ce divisible peut s'étendre à l'infini. Il n'y a pas de limite dans l'imaginaire. On peut remonter à l'infini. Tandis que les sensations, non, elles touchent quelque chose de réel. Et l'intelligence touche quelque chose de réel. ça qu'il n'y a pas de synthèse au niveau des sensations. Il n'y a pas de synthèse au niveau de l'intelligence. Les synthèses sont imaginatives, imaginaires. Et c'est dans la mesure où l'intelligence se pervertit par l'imaginaire pour devenir uniquement une intelligence logique, et pas la vraie logique. La logique pour elle-même. Dans la logique mathématique, c'est la logique pour elle-même. Elle n'est plus au service de la philo. Alors, c'est infini. C'est infini. On peut se développer ça indéfiniment. Oui.
Vous parliez au départ des synthèses au niveau du pose de la réalité, quand on voit la réalisation de la pose.
C'est pas une synthèse, puisque c'est la réalité. La manière dont elle est. La manière dont elle existe. La personne n'est pas une synthèse. C'est un tout qui n'est pas synthèse. C'est un tout réel. Vous voyez ? Le tout organique n'est pas une synthèse. Il exprime l'organisation naturelle du corps. Tandis que là, dans le point de vue de l'imaginaire, vous voyez, l'objectivité de l'imaginaire et la subjectivité. C'est ça qui est très étonnant. Parce que c'est l'imaginaire qui se construit lui-même en se développant dans le sens de l'imaginaire et en se développant pour sa propre finalité. C'est très très intéressant de voir ces choses-là. Et la dégradation de l'art, c'est quand l'imaginaire l'emporte. Et des arts moins importants, comme le roman, le cinéma, peut très bien se laisser contaminer par l'imaginaire. Et quand le cinéma, au contraire, revient à quelque chose de beaucoup plus profond, alors on touche le lien entre le cinéma et l'art. Comme pour le roman.
Dans une idéologie, est-ce que l'intelligence ne fait pas des synthèses ?
Oui, mais c'est l'imaginaire, c'est pas l'intelligence. Dans les idéologies, l'imaginaire, l'intelligence est saisie par l'imaginaire, est au service de l'imaginaire. Oui, comme dans la logique mathématique. L'intelligence ou la raison est au service de l'imaginaire. Et c'est plus l'intelligence qui commande. Quand l'intelligence commande, elle se tourne vers le réel. Elle est faite pour le réel, l'intelligence. Alors, je laisse.